Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Mjid El Gherab, candidat à l'élection législative partielle au sein de la 9e circonscription des Français établis hors de France, au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Mjid El Gherab, vous avez été député de cette circonscription de 2017 à 2022. En juin dernier, vous n'étiez pas candidat à votre succession. Pour quelles raisons êtes-vous candidat aujourd'hui à l'occasion de cette élection partielle ?
D'abord, je suis candidat parce que je réponds à une forte demande de la part de mes concitoyennes et mes concitoyens qui, depuis juin dernier, effectivement, où je ne me suis pas représenté, considèrent qu'il manque un représentant qui soit à leur côté, qui fasse des permanences parlementaires, qui les reçoive, qui traite leurs dossiers, etc. Donc, vraiment, face aux centaines de messages que j'ai reçus, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait cette annulation de l'élection à laquelle je n'ai pas participé. L'élection a été annulée. Entre-temps, j'avais pas mal de sujets personnels à régler, je les ai réglés. Et donc, voilà, je suis de nouveau partant et plein d'énergie et prêt à retourner à l'élection.
Mjid El Gherab, quel est l'enjeu de cette élection dans cette 9e circonscription ?
Il y a d'abord un premier enjeu, c'est celui de nos compatriotes, c'est-à-dire un enjeu au fond programmatique, un enjeu où on a le besoin d'avoir un député qui défende nos concitoyens sur différents points. Et moi, ces points, je les ai résumés en 5 S. Vous savez, la lettre S, 5 S. Le premier enjeu, c'est celui de la scolarité. Qui concerne la vie de nos concitoyens à l'étranger, donc l'école française à l'étranger. Le deuxième S, c'est celui de la santé, parce qu'il y a des préoccupations vraiment très fortes de la part de nos compatriotes sur ce point. Le troisième S, c'est celui de la solidarité nationale, c'est-à-dire quelle solidarité pour nos compatriotes à l'étranger. Le quatrième S, c'est celui de la sécurité. Et vous savez, on est dans une région où les enjeux sécuritaires sont très très forts avec le Sahel, avec des pays qui ont été touchés par le terrorisme ou qui le sont encore. Et puis le dernier S, c'est celui des services publics consulaires. Voilà, je dirais que ça c'est le premier enjeu programmatique et que je décline ainsi en 5 S. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu dépasse simplement le rôle du député, mais en tant que député de la Commission des Affaires étrangères pendant 5 ans, moi j'ai eu à traiter nombre de questions relatives à nos relations internationales. Et effectivement, la place de la France dans cette ère géographique, comment nos concitoyens, justement, qu'est-ce qu'ils voient derrière nos positionnements, nos prises de position, nos actions, nos entreprises, etc. Donc un enjeu très diplomatique au final, enfin plutôt de questions de relations internationales, parce que la diplomatie, ça concerne l'administration, l'État et la France, mais nous, en tant que représentants du peuple, on a aussi notre mot à dire, et effectivement, il faut savoir porter tous ces deux enjeux de manière conjointe.
Mjid El Gherab, de quelle manière souhaitez-vous, par exemple, aider les Français de l'étranger dans leurs différentes démarches administratives ?
Oui, mais c'est un des S de mon programme, c'est celui du service public consulaire. Et donc, nous avons été la première, en tout cas j'ai participé à ce vote, la première majorité, avec des indépendants comme moi confondus, qui avons remis des emplois dans les services consulaires, alors que depuis 20 ou 30 ans, il y a des coupes budgétaires terribles. On a supprimé des milliers de postes dans nos services consulaires et nos services diplomatiques. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de remettre des services consulaires à niveau, de remettre des moyens. Alors l'année dernière, on a mis plus de 100 emplois temps plein et ça a été le vote que j'ai fait en 2021 qui a permis cela. L'année qui vient, on va encore en remettre et je constate que le gouvernement a annoncé qu'il y aurait plus de 700 emplois dans nos services consulaires et nos services diplomatiques à l'étranger, ce qui est une bonne chose, c'est-à-dire que nous avons arrêté ces coupes budgétaires et aujourd'hui on est dans une pente positive où on va remettre un peu des services consulaires avec des personnes humaines, de l'humain derrière nos services consulaires et arrêter de tout numériser, de demander à chaque fois d'utiliser, même s'il le faut, c'est une bonne chose de numériser le maximum de démarches pour éviter aux gens de se présenter dans des bureaux, etc. Mais il faut quand même qu'on garde quand même des services publics consulaires qui soient humains. Voilà.
Il y a aussi un sujet qui concerne les Français de l'étranger, c'est l'accès aux banques et puis des questions sur la fiscalité également.
Oui, il y a des pays qui sont particulièrement visés, je pense à la Côte d'Ivoire, je pense à l'Algérie, etc., qui sont particulièrement touchés par cette question. Et effectivement, l'accès aux comptes bancaires doit être quelque chose d'universel. Il l'est en France, il doit l'être à l'étranger. On a beaucoup avancé sur cette question et on a maintenant, obligé les banques à justifier les fermetures de comptes bancaires. Et vous savez, il y a quelque temps, elles n'étaient pas obligées. Elles envoyaient simplement des notifications de fermeture. Et puis voilà. Là, c'est beaucoup plus compliqué pour elles de fermer le compte en banque de quelqu'un, surtout quelqu'un qui l'a depuis des années. Mais alors, pour l'ouverture de comptes bancaires et pour le service public universel, aujourd'hui, il existe en France pour tout le monde, pour les étrangers avec ou sans papier. Et moi, je voudrais qu'on étende ce service public universel bancaire aux Françaises et aux Français d'étranger via, par exemple, la Banque Postale, qui aujourd'hui bénéficie de 80 millions d'euros de l'État via la Caisse des dépôts et consignations et qui permet à chacune et chacun de pouvoir avoir, si on est rejeté d'une banque aussi, de pouvoir avoir accès à ce service public universel bancaire. Donc je voudrais l'étendre à nos concitoyennes et nos concitoyens et ça va être un de mes combats. Voilà. Et sur la fiscalité, le deuxième point sur la fiscalité, aujourd'hui, on va continuer à se battre, on s'est battu pendant les années passées pour que notamment le paiement de la CSG et de la CRDS sur les revenus immobiliers, comme pour les Français en Europe, soit étendu à tous les Français, notamment les Français d'étrangers qui vivent en Afrique, et que on puisse être exonéré du paiement de la CSG et de la CRDS, surtout que par ailleurs, nous jusqu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas accès à la sécurité sociale, hors la possibilité d'avoir la CFE, c'est-à-dire la Caisse des Français et étrangers. Donc je voudrais maintenant qu'on ait vraiment une action politique forte à l'égard de nos compatriotes et puis d'envoyer des signaux pour leur dire, voilà, vous êtes des Français à part entière et on vous considère.
Mjid El Gherab, autre sujet d'inquiétude pour les Français de l'étranger, la question de l'enseignement, avec aussi beaucoup de questions autour de Parcoursup quand on n'habite pas en France métropolitaine.
Oui, là, on a toujours pu bénéficier de Parcoursup. Alors j'apprends, malheureusement, ces quelques mois où j'ai pas été député, j'ai appris qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un peu la croix et la bannière pour nos jeunes étudiants qui veulent avoir accès à Parcoursup. Alors, je vais me saisir de ce dossier en priorité parce que l'année scolaire, à partir d'avril, sera presque finie et que les choix pour Parcoursup auront notamment été faits en début d'année. Donc il faut qu'on trouve des solutions et qu'on permette, un peu comme pour les étudiants qui vivent dans les Outre-mer, dans les DOM, en Corse, etc., qu'on puisse avoir des accès préférentiels et qu'on ait des places réservées dans les différents choix qui nous sont proposés sur la plateforme Parcoursup. Aujourd'hui, c'est pas le cas et il faut vraiment qu'on travaille dès le mois d'avril à avoir les mêmes droits que les étudiantes et les étudiants qui viennent d'outre-mer.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, Mjid El Gherab, la question des relations internationales. De quelle manière souhaitez-vous contribuer à apaiser les relations entre la France et le Maroc?
Alors, d'abord, la France et le Maroc, mais j'ai envie de dire, il y a la France et le Maroc, il y a la France et l'Algérie, il y a de plus en plus la France et la Tunisie, il y a la France et le Mali. Il y a, vous voyez, c'est, la liste est longue sur cette circonscription. Il y a la France et le Burkina Faso, où on n'a plus d'ambassadeur dans ces deux pays-là. Donc, il faut que on essaye, en tout cas, de porter une diplomatie apaisée, une diplomatie qui permette de reconnaître les pays et de les respecter même dans les mots. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc voilà, moi, comme je me suis forcé de le faire pendant plusieurs années à la Commission des Affaires étrangères, il faut que notre diplomatie évolue. Et c'est un peu les projets de l'actuel gouvernement. Mais il faut qu'elle évolue vers une diplomatie qui soit réaliste, une diplomatie de terrain, une diplomatie économique et surtout une diplomatie des peuples, et que on s'adresse à nos peuples, aux peuples africains, et je parle en tant que binational franco-marocain, mais qu'on s'adresse à ces peuples et qu'on les écoute. Au Maroc, la première des revendications des Français du Maroc, c'est par exemple que la France reconnaisse la marocanité du Sahara. Et en faisant cela, je peux vous garantir que les relations entre la France et le Maroc repartirait vraiment très très fort, que les Français d'Algérie demandent la reconnaissance par la France du crime contre l'humanité qu'a été la colonisation française en Algérie. Voilà, donc il y a une sorte de diplomatie de la reconnaissance et surtout des paroles fortes à porter, comme on l'a fait pour le Rwanda par exemple, pour pouvoir revenir dans le cœur des Africaines et des Africains. Voilà.
Vous souhaitez que le président Macron effectue, lors de cette année 2023, une visite au Maroc, comme il a pu en faire une en Algérie ?
Absolument, absolument. On l'attend avec impatience. Je suis convaincu que tôt ou tard, elle adviendra. Je crois que là, aujourd'hui, la situation ne le permet pas. Mais je suis convaincu que dans les mois qui viennent, on aura forcément un déplacement d'État. Et puis peut-être là, on ouvrira un nouveau chapitre dans les relations entre la France et le Maroc. Parce que vous savez, aujourd'hui, des grands hommes d'État, comme le président Jacques Chirac, qui avait fait de cette relation une relation d'exception, relation unique, quasi familiale. Et aujourd'hui, il faut qu'on retrouve cet âge d'or de la relation.
Un mot tout de même sur l'actualité franco-française avec cette réforme des retraites qui ne passe pas. Comment vivez-vous cette situation, vous qui êtes candidat à l'Assemblée nationale ?
Moi, à titre personnel, philosophiquement, on pouvait débattre de cette question des retraites. Et pour le coup, il y avait des arguments pour ouvrir, en tout cas philosophiquement, intellectuellement, une discussion. Voilà, moi j'aurais porté certains amendements sur la pénibilité en pensant à mon papa, en pensant à ma maman, en pensant à ma famille, en pensant à mes proches, en pensant à celles et ceux qui sont dans la pénibilité. Donc j'aurais ouvert, forcément j'aurais porté des amendements très forts. J'aurais pensé à élargir par exemple l'ASPA, à tous les tirailleurs qui nous ont servi et qui ont donné leur vie, leur sang pour la libération de la France, pour l'armée française. J'aurais donné, surtout en ce moment avec le film Tirailleurs de Omar Sy, peut-être un sujet d'actualité. Donc j'aurais porté quelques amendements qui auraient, disons, donné une existence à nos compatriotes qui résident à l'étranger dans ce débat. Parce que vous le voyez bien, sur les retraites, bah, une seule fois, le mot français de l'étranger n'a été prononcé. On n'a même d'ailleurs pas pu débattre de la question des retraites, puisqu'il y a eu une forme d'obstruction un peu disons, bizarre de la part de l'extrême gauche. Plutôt que de débattre et d'aller argument contre argument, l'extrême gauche a choisi de fermer les rideaux et donc pas de débat, forçant ainsi le gouvernement à passer par 49-3. Moi, sur le fond du texte, j'étais prêt à débattre, j'étais prêt à discuter. Mais sur la forme, utiliser le 49-3, vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Déconstruire la haine ». J'ai fait 300 pages pour expliquer les défauts aujourd'hui de notre Parlement. Et le 49-3 fait partie justement d'une des parties de mon bouquin où je fustige justement cette aujourd'hui disposition qui enlève le débat aux parlementaires, aux représentants du peuple. Donc, je suis très critique sur le 49-3. Donc, j'aurais forcément voté contre à terme, parce que si sur le fond on aurait pu discuter, aujourd'hui sur la forme, j'aurais été absolument contre cette manière de réformer nos retraites. Voilà.
Gilles Delguera, vous avez fait appel suite à une condamnation pour des faits remontant à 2017. Les suites de cette affaire peuvent-elles entraver votre travail parlementaire dans les 4 ans qui viennent ?
Écoutez, j'entends ça, je me souviens d'ailleurs des premières réactions en 2017 de l'opposition de gauche et d'extrême gauche qui me demandait de démissionner, qui me disait que je n'étais pas en mesure de faire un mandat. Bon, vous en êtes témoin, j'ai été jusqu'en 2022 et j'ai fait mon mandat de manière très sereine, très apaisée. J'ai porté tous les sujets. Pendant la crise Covid, j'étais au chevet de nos concitoyens. J'ai défendu au maximum nos compatriotes. Et je pense qu'aujourd'hui, sur ma circonscription, c'est quand même très reconnu que j'ai été présent et que j'ai défendu les intérêts de mes concitoyens. Mais là, vous parlez d'un sujet quand même personnel, c'est-à-dire que c'est une altercation qui s'est déroulée entre un ami que je connais depuis plusieurs années et avec lequel on a eu un différend politique qui s'est transformé malheureusement en bas de mon domicile en différend physique. Je le regrette. J'ai présenté mes excuses à mon ami Boris qui, j'en suis convaincu, les a acceptées puisque nous avons l'année dernière signé un accord entre lui et moi justement pour clore et pour tourner la page et pour passer à autre chose. Donc donc aujourd'hui j'ai réglé ce problème en tout cas entre Boris et moi. Maintenant il reste des actions en justice. J'ai envie de dire le temps de la justice c'est le temps de la justice. Moi je suis pas dans le temps de la justice, je suis dans le temps politique. Donc j'ai fait un mandat. Je ne vois pas pourquoi je referais pas un deuxième mandat et pourquoi certains voudraient absolument m'empêcher de faire. Ils ont essayé de m'empêcher de faire un premier mandat en me disqualifiant. Voilà, je l'ai fait. Ces mêmes personnes veulent me disqualifier et m'empêcher de faire un deuxième mandat. Alors, je dis pas que je ferai un troisième mandat, mais je trouve que c'est quand même assez singulier comme manière de faire campagne. Je pense que les Françaises et les Français attendent de leurs représentants de porter des convictions, de porter des projets, de les défendre et pas d'entrer dans des considérations personnelles, privées, qui n'ont absolument rien à voir avec la vie politique.
Merci, Gilles Delguera. Je rappelle que vous êtes candidat à l'élection législative partielle au sein de la 9e circonscription des Français établis hors de France. Bonsoir.
Merci.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.